La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Merci de nous rejoindre pour la Libre Antenne. RFI vous donne la parole. Comme chaque vendredi, vous faites le programme. Tous les sujets nous intéressent. N'hésitez pas à nous appeler, nous écrire aussi sur les réseaux sociaux comme Falingué qui nous a laissé un message sur Facebook à propos du Mali. Une semaine, presque jour pour jour, après le massacre d'au moins 160 personnes à Ogossagou dans le centre. Toutes les victimes étaient peules et après cette tuerie, les autorités maliennes ont décidé de dissoudre la milice Dogon Danna Amassagou. Mais Falingué s'interroge, pourquoi le gouvernement insiste-t-il sur ce mouvement alors que les auteurs des crimes n'ont pas encore été identifiés? Amadou nous appelle de Bamako pour revenir lui aussi sur les mesures prises par les autorités maliennes. Bonjour.
Bonjour Anne Kantner et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
La réaction du président Ibeka est-elle à la hauteur selon vous?
Je commencerai tout d'abord par, tout ce que mes prédécesseurs, enfin je veux dire mes concitoyens ont fait, par m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes, non seulement du massacre d'Ogossagou, mais aussi de Djoura et de Kolongo. Alors, les mesures prises par les autorités maliennes, à mon sens, on nous donne l'impression, excusez-moi vraiment cette expression, que c'est le médecin après la mort. Moi, je lance un cri de cœur, un cri de colère là sur vos antennes pour dire que les autorités, que le chef de l'État en personne doit prendre ce dossier en main. À chaque fois qu'il y a une attaque, oui, on fait une visite sur les lieux en offrant quelques liasses de biais pour essayer de consoler les parents des victimes. Oui, ça peut être bien d'un côté, mais il faut aller au-delà de toutes ces mesurettes comme on l'a assez entendu ces derniers temps dans la presse malienne.
Bah alors là, cette fois-ci, il y a quand même eu davantage de décisions. Effectivement, le président s'est rendu sur place, mais il a aussi limogé une partie de l'état-major militaire et il a donc décidé de dissoudre cette milice d'Amassagou. Et pourtant, elle démet toute responsabilité dans l'attaque. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure nécessaire ?
Oui, c'est déjà un grand pas, le fait de la dissolution de la milice d'Amassagou, c'est déjà un grand pas, mais il faudra aller au-delà de la simple dissolution et au-delà du simple limogeage des généraux. Je veux dire, madame, le simple fait de limoger ces généraux-là, ça ne résout pas le problème. Le Mali, dans son entièreté, se sent en insécurité aujourd'hui. Vous avez entendu, tout comme moi, dans votre édition de tout à l'heure, la manifestation des Maliens de Mauritanie. On a adressé une lettre ouverte au président de la République pour qu'il prenne vraiment ce dossier en main. Les gens se sentent en insécurité dans ce pays-là. Et moi, je dis, il faut aller au-delà de ces mesures-là. Il faut renforcer les mesures d'anticipation. Les mesures d'anticipation parce que tout simplement, on a constaté qu'à chaque fois, il y a des signes d'alerte. Mais des signes d'alerte qui ne sont jamais pris au sérieux. On attend que les forfaits se fassent et puis après, pour aller faire des salutations sur les lieux. Ça ne résout pas le problème. Il faut, je pense que l'opération Barkhane est au Mali depuis la crise de 2012-2013. Il y a l'amunissement aussi qui est présent. Il faut vraiment une conjugaison des efforts pour qu'on puisse endiguer ce phénomène-là. Vous savez, madame, il y a ce conflit intra- et intercommunautaire a fait plus de victimes que la guerre, que l'invasion, que depuis l'invasion djihadiste au nord Mali depuis 2012-2013.
Donc une plus grande implication des forces internationales qui se trouvent dans le pays. Amadou, vous restez avec nous, on va accueillir Moussoulé qui souhaite aussi revenir sur ces événements. Bonjour Moussoulé. Moussoulé, est-ce que vous êtes avec nous? Bon, alors nous, on a un petit peu de difficulté à vous entendre. On essaiera de vous rappeler. En attendant, un dernier mot d'Amadou au sujet de la situation donc dans le centre du Mali. Vous disiez qu'il fallait peut-être faire davantage appel aux militaires français de l'opération Barkhane ou encore à la MINUSMA, la force des Nations Unies. Il y a aussi d'autres milices. Il y a des milices peules qui existent dans la région. Mais jusqu'à présent, la multiplication des groupes armés n'a pas du tout permis de régler le problème. Au contraire, comment mieux prévenir et éviter justement que les populations s'arment elles-mêmes, Amadou ?
Oui, c'est ça. C'est en fait ce que je voulais dire. Il faudrait davantage une étroite collaboration entre justement les populations civiles et les forces de sécurité maliennes aidées par justement l'opération Barkhane, par l'AMUNISMA. Il faut plus de renseignements. Il y a d'un autre côté aussi la prolifération des armes légères. Je pense qu'il faut attaquer le mal à la racine, madame. Tant que l'État reste dans cette position de laxisme, il y aura toujours, je le souhaite pas, je suis malien, je suis meurtrier aujourd'hui, il y aura toujours d'autres massacres. Mais celui-là a été le pire, c'est-à-dire l'attaque la plus sanglante depuis le début de la crise en 2012-2013. Je reviens encore là-dessus.
160 morts, effectivement, ça ne s'était pas vu. Vous dites qu'il faut absolument désarmer les milices et toutes les milices. Moussoulé, on a réussi à vous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous partagez ce que nous disait Amadou à l'instant sur la nécessité de désarmer tous les groupes qui ont décidé de se défendre eux-mêmes dans le centre du Mali?
D'accord. Bonjour. Tout d'abord, je vais commencer à m'incliner devant la mémoire des victimes et leur âme reposante. Effectivement, je partage l'avis d'Amadou. C'est-à-dire le gouvernement a failli à sa mission. C'est l'échec total. Le régime s'est montré incapable face à la sécurisation des personnes et leurs biens. Depuis qu'ils ont laissé les groupes armés pour se défendre et procurer des armes dans les pays comme ils veulent, alors qu'il y a une armée qui est là, on doit désarmer tous ces groupes armés qui sont dans les centres et dans les pays plutôt. On doit les désarmer tous.
Est-ce que vous trouvez que la réaction du gouvernement arrive au bon moment ou trop tard, comme nous le disait Amadou?
Trop tard. C'est comme Amadou l'a dit, c'est le médecin après la mort. Parce qu'il y a eu des signes d'alerte avant l'attaque. Il y a eu des signes d'alerte avant l'attaque, mais rien n'a été fait par le gouvernement, ni par l'armée, rien du tout.
Donc il aurait fallu agir plus tôt, anticiper, faire de la prévention. Merci beaucoup Amadou et Moussoulé d'avoir été en ligne avec nous. Passez une très bonne journée à Bamako. Autre grand dossier de l'actualité africaine cette semaine, c'est l'avenir du président Bouteflika à la tête de l'Algérie. Lâché par ses soutiens traditionnels et toujours contesté dans la rue, une nouvelle journée de manifestation est prévue ce vendredi pour la 6e semaine de suite. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Vous vous trouvez en France où il y a eu aussi des rassemblements ces dernières semaines. Irez-vous de nouveau manifester aujourd'hui?
Aujourd'hui, je travaille, donc je ne peux pas aller manifester. Par contre, je veux bien que la pression continue jusqu'à ce que toute cette population qui a été mobilisée obtienne ce qu'elle voulait.
Vous pensez qu'il faut maintenir la pression?
Oui, il faut maintenir la pression. Je pense que c'est le moment où il faut pas lâcher. Donc, pour maintenir la pression, ça commence à porter ses fruits. Donc, on espère bien que ça va aller jusqu'au bout.
Vous dites que ça commence à porter ses fruits. Vous considérez, par exemple, que l'annonce du chef d'état-major cette semaine de demander à ce que le président Bouteflika soit déclaré inapte, c'est un pas important?
Très important. Mais avant ça, déjà, il y avait le renoncement au cinquième mandat, il y avait le renoncement ils voulaient mettre une période de transition qui était prévue dirigée par Monsieur Ebrahimi qui est rejeté par la rue. Donc je pense qu'il faut aller au bout pour obtenir ce qu'elle voulait la population. Cette jeunesse qui s'est mobilisée depuis le 22 février.
Merci Mohamed de nous avoir appelés. On continue à parler de l'Algérie avec Brice Day. Bonjour.
Bonjour Anne.
Que pensez-vous de cette annonce du chef d'état-major cette semaine qui demande que l'article 102 de la Constitution soit appliqué, c'est-à-dire que en fait le président Bouteflika soit déclaré inapte? Est-ce que ça vous a surpris?
Non, ça m'a pas du tout surpris vu la pression de la rue. Je pense que cette pression a fait céder l'armée. Déjà, il faudrait dans un premier temps remercier les militaires algériens qui n'ont pas usé de la force pour réprimer. Il n'y a pas de répression à ce niveau-là. Et aussi féliciter le peuple algérien pour les manifestations pacifiques, sans débordement, sans casse. Ça, c'est à souligner. Et donc, j'ai pas été surpris par cette annonce. Vu la pression que subit l'armée en ce moment, et je pense que le peuple algérien doit maintenir la pression parce qu'on sait tous comment ça se passe en Afrique. Quand il y a la pression, ça bouge, les lignes bougent. Dès qu'on lève le pied, bah écoutez, ça repart comme avant.
Et est-ce que là, vous comprenez les inquiétudes de certaines personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, de personnes qu'on a entendues dans la presse, d'Algériens qui considèrent en fait, en quelque sorte, que le chef d'état-major cherche essentiellement à garder du temps et à gagner du temps, pardon, et à préserver le régime actuel, le système?
Oui, exactement. Le danger, c'est ça. C'est que ils ont senti le vent tourner et ils lâchent du lest pour faire croire qu'il va y avoir un changement. Or, ils veulent juste gagner du temps, mettre à l'écart le président Bouteflika, parce que forcément, si le président est déclaré inapte, c'est le président du Sénat, je crois, ou le président du Conseil constitutionnel qui remplace le président. Or, ces deux personnages de l'État sont proches du président Bouteflika et proches des militaires. Donc, cette pression qui s'exerce aujourd'hui doit être accompagnée des revendications, notamment le choix par le peuple algérien, par les organisations syndicales algériennes, d'un homme neuf qui va diriger une transition sans les militaires, afin d'organiser des élections pour permettre au peuple algérien de choisir son dirigeant. La pression doit s'accentuer, doit rester présente. À ce niveau-là, c'est surtout cette demande-là qui fera céder l'armée.
Donc ne pas lâcher pour l'instant. Merci beaucoup Brice Day d'avoir été avec nous. Bonne route, hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes en voiture. On va continuer à parler de l'Algérie avec Idriss, bonjour.
Oui, bonjour Antoine Cantner.
On parlait à l'instant de cette décision du chef d'état-major de demander à ce que le président Bouteflika soit déclaré inapte. Est-ce qu'à votre avis c'est plutôt un changement de façade ou un vrai changement en profondeur?
Bah écoutez, je pense tout simplement que c'est une prise en considération d'une certaine réalité. C'est-à-dire que le peuple algérien n'a pas lâché du lest, donc il est véritablement en train de mettre la pression. Et comme disait un précédent auditeur, le fait qu'il n'y ait pas de violence de la part des manifestants, encore moins de tuerie de la part de l'armée, fait qu'il y a un constat, il faut aller vers une certaine négociation parce que la pression ne baisse pas du tout.
Et du côté de l'opposition et des manifestants, est-ce que vous pensez qu'il est temps de mettre un terme au rassemblement et de s'asseoir à une table de négociation, par exemple, ou au contraire, la contestation doit se poursuivre dans la rue?
À partir du moment où on constate qu'il y a, n'est-ce pas, des personnalités qui commencent à lâcher le président Bouteflika et que un pan important de l'armée se joint aux manifestations, enfin pas aux manifestations, mais aux exigences de la population, je pense qu'il faut saisir la balle au bon et à partir de là, se diriger vers un dialogue et éventuellement un gouvernement inclusif où la société civile aura une part belle et comme ça on pourra créer ou construire les structures d'une Algérie nouvelle, parce qu'il faut véritablement que l'armée lâche du lest. C'est une longue tradition qui date du FLN. L'armée a joué sa partition lorsqu'il y a eu la montée de l'islamisme, c'est vrai, mais aujourd'hui on ne peut plus accepter que cette tradition des généraux qui tirent les ficelles dans l'ombre perdure. Il faut véritablement que là l'armée constate que la société civile est présente, qu'elle ne lâchera pas. Ce qui est un peu dommage, c'est que le mouvement ne soit pas aussi structuré que ça. Mais à partir du moment où on a des organisations syndicales, des syndicats de magistrats, d'avocats, ainsi de suite, qui rentrent dans la danse, il est fort à parier que l'armée sait qu'elle joue là sa dernière partition.
Merci beaucoup, Idriss.
Parce que le peuple ne lâchera pas.
Merci d'avoir participé, d'avoir alimenté le débat avec Brice Day et Mohamed. On aura l'occasion de voir dans la journée si les manifestants sont toujours aussi nombreux dans les rues d'Algérie et si la pression reste forte, non seulement contre le président Bouteflika, mais contre le système tout entier. Merci à tous d'être avec nous. Vous avez été nombreux aussi cette semaine à vouloir parler football, puisqu'on connaît depuis dimanche dernier la liste des 24 équipes qualifiées pour la prochaine CAN. Et pour la première fois depuis 9 ans, le Bénin sera de la partie. Bonjour Innocent.
Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, 9 ans après sa dernière participation, est-ce que le Bénin est prêt pour la compétition?
Oui, je peux dire oui. Bon, c'est d'avoir un motif de sa satisfaction pour les joueurs, pour les dirigeants de la Fédération Bénin de football. Bon, on a aussi des chances de qualification au second tour. Bon, tout dépendra aussi du tirage au sort du 10 avril, mais il faut forcément compter sur la jeunesse dans l'équipe du Bénin amenée par David Digla, Saturnin Alagué, qui sont tous deux sociétés de Niort, deuxième division en France. Il y a David Kiki et Jodel Dossou de Vaduz Football Club à Liechtenstein. Maintenant, il y a le retour aussi des cadors. Stéphane Cesséon, ancien Parisien.
Oui, qui va revenir, qui n'a pas joué pendant les éliminatoires, mais qui sera là, a priori, pour la CAN.
Oui, forcément, oui. Non, il a été écopé d'un carton rouge pour le match contre l'Algérie. Il a raté la rencontre contre les Éperviers, mais il revient maintenant en tant que capitaine emblématique pour soutenir le collectif béninois.
Alors, quelles sont les chances du Bénin?
Oui, il y a d'abord la jeunesse. Bon, pour une première participation, pour ces jeunes, ils vont se donner à fond.
Vous les voyez aller jusqu'où? Jusqu'à quel stade de la compétition?
Oh, ils peuvent aller en quart de finale. Ils peuvent aller en quart de finale parce qu'il y a un certain nombre de joueurs expérimentés dans l'effectif. Et forcément, il y a aussi la valeur ajoutée que les binationaux vont apporter. Sébio Soukou qui évolue à Hansa Rostock, Olivier Verdon, Steve Mounier de Huddersfield et puis Jordan Adé aussi de Auxerre Football Club en France. Maintenant, forcément, il y a l'encadrement technique qui est assuré par Duchier. C'est sa deuxième qualification pour le Bénin. Donc, ce melting pot-là est un facteur de cohésion.
Donc, il y a des bonnes personnalités sur lesquelles s'appuyer et donc viser les quarts de finale. Merci beaucoup, Innocent. Cette année, on inaugure une CAN nouvelle version. 24 équipes au lieu de 16. Un coup d'envoi donné en juin et pas en janvier, comme d'habitude. Ghislain, vous êtes en ligne de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour.
Que pensez-vous de cette nouvelle formule de la compétition?
Oui, je pense déjà que c'est une nouvelle expérience pour la CAF et pour l'Afrique, hein, parce que nous avons été habitués à une formule de 16 équipes, quand même bien qu'il y ait de mauvaises et de bonnes organisations, on peut se le dire. Mais là, déjà, c'est une nouvelle expérience que tout le monde attend voir la CAF ou l'Afrique, comment est-ce qu'elle va, elle va gérer cette nouvelle expérience.
Il y a eu quelques nouveaux venus. Est-ce que vous pensez que ça peut changer la donne et peut-être déstabiliser certaines grandes équipes?
Oui, les nouveaux venus, oui. Il y en a. Ils peuvent venir aussi gêner. Mais là, déjà, sur le plan de l'organisation, nous craignons aussi quelques dérapages parce que nous savons bien que l'Égypte a toujours été une terre du football, bien sûr, mais en partant aussi de théâtres, de violence dans des stades, on le sait. On peut aussi se demander, est-ce que la CAF, en attribuant cette CAN à l'Égypte, elle a au moins bien inspecté les infrastructures, notamment les stades, les hôtels, le terrain des entraînements.
Mais il faut dire que c'était quand même déjà un deuxième choix, puisqu'en principe, le Cameroun aurait dû organiser la compétition. Il s'est vu retirer l'organisation par la CAF. Vous ne pensez pas que l'Égypte est quand même mieux préparée si on lui a attribué la compétition?
Mais madame, un deuxième choix, oui. Mais le Cameroun ne s'était pas dit qu'il n'était pas prêt. Hein. C'est la CAF qui a vu que le Cameroun n'était pas prêt. Et on peut aussi se dire que le Cameroun était choisi organisateur de la CAN 2017. C'était à une formule de 16 équipes. Et notamment quand le nouveau comité est arrivé à son symposium, il y a un décret qui a fait passer la compétition à 24 équipes.
Oui, c'est vrai. Donc, que le changement avait eu lieu en cours de route et pas avant que le Cameroun soit désigné pour l'organiser. Un petit mot peut-être de votre équipe, Ghislain. La qualification a été un peu compliquée pour la RDC. Quelles sont les chances des Léopards à votre avis?
Bon, les Léopards, c'est un nouveau souffle. Hein. C'est une nouvelle génération qui a envie de faire quelque chose et qui est aussi une équipe bien placée actuellement en Afrique. 51e classement FIFA, je ne sais pas s'il y a eu des modifications. Donc, avec cette génération portée par le coach Ibengue, on espère quand même que le Léopard feront quelque chose. Et notamment, ils sont parmi les favoris. Ici, on peut citer l'Égypte, le Nigeria, mais le Léopard aussi en fait partie. Quand même, bien qu'il y ait des nouveaux venus, qu'on espère aussi que ce nouveau